France Inter.
Aujourd'hui dans Affaires sensibles, la guerre des ambassades. À la mi-juillet 1987, la France rompt ses relations diplomatiques avec l'Iran de l'ayatollah Khomeini. En cause, et ce n'est que la partie émergée de l'iceberg, le refus par l'ambassade de Téhéran à Paris de laisser un juge d'instruction auditionner son traducteur, un certain Wade Gorgi. La France vit alors au rythme des attentats terroristes et des enlèvements de ses ressortissants au Proche-Orient. Derrière ses morts et ses blessés, derrière l'angoisse des familles qui attendent le retour des otages, s'inscrivent les relations troubles entre Paris et Téhéran pour non-respect d'un accord commercial sur le nucléaire, le tout dans un contexte politique inédit en France, la première cohabitation. Dans un jeu politique où tous les coups sont permis, la tension avec l'Iran constituera l'un des terrains de cet affrontement politique qui connaîtra son acmé en mai 88, lors du débat présidentiel entre deux tours, entre le président sortant, François Mitterrand, et le premier ministre candidat, Jacques Chirac. Mais bien plus grave encore, au prix de vies brisées, dont celle du juge d'instruction Gilles Boulouk, qui finira par se suicider. Notre invité aujourd'hui, Hervé Brousilly, journaliste, président du prix Albert Londres, figure des rédactions de l'audiovisuel et du reportage. Il a suivi cette affaire Gorgi pour Antenne 2. Affaires sensibles, une émission de France Inter, diffusée en direct. Récit documentaire Sylvie Fagnard, rédaction en chef Franck Cognard, chargé programme Rebecca de Nantes, réalisation Hélène Bizio.
Fabrice Drouel, Affaires sensibles, sur France Inter.
L'air est déjà frais à Paris en cette fin d'après-midi du mercredi 17 septembre 1986. La foule se presse autour de la gare Montparnasse, les adolescents stationnent en grappe, Walkman sur les oreilles, et sur les trottoirs de la rue de Rennes, les banlieusards marchent au pas de course, histoire de ne pas rater leur train. Scène classique de la vie parisienne. Michel Perra se dirige vers la FNAC avec sa fille, Julie, 12 ans. Elle vient de passer un excellent moment avec l'une de ses plus vieilles amies, discussion, détente, séance de ciné, une dernière course, puis Michel reprendra avec Julie le chemin de Villejuif où elles habitent un pavillon. À 17h25, une BMW gris foncé, immatriculée dans les Yvelines, se glisse le long du trottoir, juste devant le magasin Tati de la rue de Rennes. Elle s'arrête quelques instants dans la voie réservée au bus. Un homme en descend pour placer un paquet dans une poubelle. 10 secondes plus tard, une énorme explosion retentit. Une bombe vient d'éclater. Michel Perra est tué sur le coup. Elle est l'une des 7 personnes victimes de ce qu'on qualifie immédiatement d'attentat terroriste. La bombe, meurtrière, a fait aussi 54 blessés, parmi lesquels Julie, la fille de Michel Perra. Face aux vitrines dévastées du magasin Tati, Paris plonge dans l'angoisse. Car l'attentat de la rue de Rennes est le point d'orgue de 18 mois d'horreur. Entre décembre 1985 et septembre 1986, 12 attentats ont frappé la capitale. 13 personnes sont déjà mortes et on compte plus de 250 blessés. Les attaques ont toutes lieu dans des lieux très fréquentés. Les Galeries Lafayette en décembre 85, sur les Champs-Élysées le 3 février 86, puis chaque jour ou presque, début septembre 86, au Forum des Halles, dans le TGV Paris-Lyon, à la librairie Gilbert Jeune de la place Saint-Michel, à nouveau sur les Champs-Élysées et dans une poste proche de l'Hôtel de Ville. Le changement de majorité politique avec la victoire du RPR aux législatives en mars 86 ne change rien, malgré les saillies sécuritaires de la droite. La nomination de Charles Pasqua au ministère de l'Intérieur par le Premier ministre Jacques Chirac n'a pas d'effet. Monsieur Pasqua avait pourtant promis pendant la campagne de terroriser les terroristes. Mais les attentats continuent et c'est Paris qui est terrorisé. Chacun de ces drames est revendiqué par un mystérieux groupe, inconnu au bataillon jusque-là, le Comité de solidarité avec les prisonniers politiques arabes et du Proche-Orient, ou CSPPA. Mais pour l'attentat de la rue de Rennes, aucune revendication. Pourtant, les policiers tiennent déjà une piste qui, le 18 septembre, fait l'ouverture du journal de 20h sur Antenne 2.
La confusion après l'attentat d'hier rue de Rennes. Les policiers affirment tenir une piste sérieuse puisque deux témoins ont reconnu formellement parmi les terroristes d'hier l'un des frères de Georges Ibrahim Abdallah. Pourtant, fin d'après-midi, un journaliste de l'agence France Presse en poste au Liban affirmait de son côté qu'il venait de rencontrer ce même homme, Émile Abdallah, dans son village au nord de Beyrouth. Alors, provocation ou ultime manœuvre, il est difficile ce soir de répondre à la question.
Qui est ce Georges Abdallah que les enquêteurs antiterroristes ont dans leur ligne de mire et dont ils accusent les frères d'avoir perpétré la tuerie de la rue de Rennes? Au même moment, cet homme-là, Abdallah, croupit dans une prison française. Il a été condamné quelques mois plus tôt pour une histoire de faux passeport. Mais Abdallah est surtout l'un des fondateurs des FARL, les Fractions Armées Révolutionnaires Libanaises, un mouvement d'inspiration marxiste qui combat la présence américaine au Liban. En 82, il a revendiqué l'assassinat de l'attaché de l'ambassade US à Paris, puis celui d'un membre du Mossad, toujours dans la capitale française. Alors, Georges Abdallah fait figure de coupable idéal. Sa libération est d'ailleurs l'une des revendications constantes du CSPPA, ce mouvement qui se dit à l'origine de la vague d'attentats qui frappe la France depuis plusieurs mois. Et les frères de Georges font, pour le coup, des complices tout trouvés. Pourtant, dès le lendemain de cette accusation, le clan libanais proteste. Il n'est pour rien dans cet attentat meurtrier. Et il l'affirme haut et fort à la correspondante de France Inter au Liban, Amal Moghaizel.
Si les autorités françaises tentent quelque chose contre Robert et Maurice, nous nous lèverons tous pour les défendre, nous dit un habitant de Kobeat, à qui nous demandons notre chemin. La France perd la tête, marmonne-t-il dans sa barbe. Pourquoi est-ce qu'ils font ça? C'est un coup monté. Il faut bien trouver un bouc émissaire. L'opinion publique française, fatiguée par le chômage, peut tout gober. On critique le manque de sérieux des officiels français. Mitterrand et Chirac, la mère de Robert, Maurice et Émile, regardent les journalistes avec tristesse. Comment leur expliquer que mes fils sont installés là depuis déjà un bon bout de temps? Émile, accusé d'être l'auteur de l'attentat de la rue de Rennes, travaille à la compagnie d'électricité de Tripoli. Bien sûr, vous pouvez aller le rencontrer. Mais à quoi sert de l'interviewer? Ce n'est pas à chaque énormité que le gouvernement français va dire qu'on va se sentir obligé de démentir. De Beyrouth, Amal Moghaizel pour France Inter.
Les dénégations des frères Abdallah ne font pas changer d'avis Charles Pasqua et son ministre de la Sécurité publique, Robert Pendreau. Non, ces deux-là n'en démordent pas, les Libanais des FARL sont bien derrière les attentats de Paris. Et pourtant, l'enquête piétine. Loin des hiérarchies parisiennes, un enquêteur de terrain va creuser une autre piste. L'inspecteur Péchard, de l'antenne locale de la DST de Tours, se voit offrir cette nouvelle piste sur un plateau d'argent. Il se trouve que quelques mois auparavant, il a participé à l'opération Taupinière, menée par le contre-espionnage dans les milieux islamistes. Le 12 février 1986, il fait partie des policiers qui arrêtent 64 personnes, toutes soupçonnées d'avoir des accointances de près ou de loin avec les mollahs iraniens. De cette pêche au gros, Péchard a amené un petit poisson, un certain Lofti, un Tunisien. Jeune, il est parti étudier à l'université de Rome, en Iran, le lieu de formation des étrangers au chiisme. Malgré tout, la DST ne trouve rien de tangible à lui reprocher. Lofti est donc relâché. Mais le 27 février 87, le Tunisien reprend directement contact avec Péchard de la DST. Il revient d'Iran et il a des révélations à faire au contre-espionnage français. Et pas des petites révélations, non. Il connaît les responsables des attentats de Paris, rien que ça. Alors Lofti déballe son sac. À Péchard, il affirme avoir vu des documents officiels de la République islamique d'Iran, à l'université de Rome, documents qui font clairement endosser la responsabilité des attentats dans la capitale française. Mieux, il assure connaître le réseau qui sévit à Paris, sur ordre de Téhéran. Il peut même apporter des preuves aux enquêteurs français. Oui, il suffit pour cela de piéger ses anciens amis terroristes. Face à ces déclarations tonitruantes, Péchard passe le relais au siège parisien de la DST, qui accepte de financer la location d'une planque pour Lofti. Dans ce petit appartement, rue de la Voûte, à quelques dizaines de mètres de la place de la Nation, Lofti ne va pas tarder à recevoir quelques visiteurs. Bien sûr, la DST a truffé le studio de micros et ne part pas une miette de leur conversation. Parmi ses visiteurs, l'un d'eux intéresse particulièrement le contre-espionnage. Il s'agit d'un autre Tunisien, Fouad Ali Saleh. Écoutez Monsieur X raconter dans l'émission « Rendez-vous avec X » ce que les micros de la DST captent des propos de ce Fouad Ali Saleh.
Que dit exactement Fouad Ali Saleh ?
Mais il confirme d'abord ce que Lofti a déjà dit aux hommes de la DST, c'est bien l'Iran via le Liban qui donne les ordres.
À quel niveau ?
Le plus haut. D'après Fouad, l'ayatollah Khomeini lui-même est informé et donne son accord.
Est-ce que Fouad assume la responsabilité des derniers attentats à Paris ?
Absolument, il donne de nombreux détails. Le Tunisien affirme même qu'il existe deux groupes de terroristes qui utilisent la même source d'approvisionnement en explosifs, c'est-à-dire le Hezbollah. L'un est composé de Libanais qui quittent le territoire français dès qu'ils ont agi. L'autre regroupe essentiellement des Nord-Africains.
Et c'est Fouad Ali Saleh qui coordonne tout ça, non ?
Oui, en plein accord avec les dirigeants du Hezbollah au Liban.
Le Liban est bien impliqué, mais pas du côté des Farles de Georges Abdallah. Non, du Hezbollah, et donc derrière l'Iran. Une vieille connaissance pour la DST en ce milieu des années 80, parce que, en même temps, la France vit une deuxième tragédie. En mars 87, au moment où la DST intercepte les confessions des porte-flingues du Hezbollah, 9 otages français sont détenus au Liban. Depuis mars 85, 2 diplomates, Marcel Fontaine et Marcel Carton. Depuis le 22 mai, Michel Saura, chercheur au CNRS, et Jean-Paul Goffman, reporter. Et depuis mars 86, une équipe de journalistes d'Antenne 2, Philippe Rochaud, Georges Hansen, Aurel Cornéa et Jean-Louis Normandin. Enfin, janvier 87, un autre journaliste, Roger Hawk. Ces 9 Français sont aux mains du Hezbollah, une organisation terroriste qui émerge au début des années 80 dans un Liban en pleine guerre civile. Obéissant aux préceptes chiites, le Hezbollah, on le constate au vu de la teneur de ses revendications contre la libération des otages, est bel et bien le bras armé de l'Iran, oui, de l'Ayatollah Khomeini et de son régime, aujourd'hui encore. Contre celle des otages, le Hezbollah réclame la libération d'un certain Anis Nakash. Ce Libanais, passé du nationalisme radical palestinien à l'islamisme chiite, purge une peine de prison en France, après avoir été condamné à perpétuité en 82 pour la tentative d'assassinat à Paris de l'ancien premier ministre du Shah, Chapour Bakhtiar. Autre revendication mise dans la balance par les négociateurs que les émissaires français commencent à rencontrer, la fin de la livraison d'armes à l'Irak. Depuis le 22 septembre 1980, Saddam Hussein a envahi son voisin chiite et mène sur son territoire une guerre de tranchées effroyablement meurtrière. Et l'Iran veut que la France cesse d'armer son ennemi. Et ce n'est pas fini. Il y a un troisième contentieux, plus secret, et qui met en jeu des milliards de francs de l'époque. L'Iran reproche à la France de ne pas respecter leur accord sur le nucléaire. Pour comprendre ce dernier point resté obscur jusque-là, il faut remonter à la fin des années 70, alors que la France de l'atome rayonne sur le monde. Extrait du journal de France Inter du 9 avril 1979.
Monsieur Barre a visité ce matin la cathédrale de l'époque atomique, l'usine nucléaire civile de Rodif. Installée sur le site de Pierrelatte, dans la vallée du Rhône, c'est le plus gros chantier d'Europe. Tout y est colossal. Les bâtiments hauts comme l'Arc de Triomphe ou les simples tuyaux qui font penser au tunnel du métro. En 1982, quand Eurodif aura atteint sa vitesse de croisière, elle produira chaque année près de 3000 tonnes d'uranium enrichi, de quoi alimenter 90 centrales nucléaires, des centrales françaises, mais aussi étrangères, car plusieurs pays participent au projet Eurodif, l'Italie, la Belgique, l'Espagne et, jusqu'à preuve du contraire, l'Iran.
Eurodif, c'est le nom qui explique la colère des mollahs contre la France, qui n'hésite pas à traiter de petit Satan aux côtés du grand frère américain. Et pourtant, tout n'avait pas si mal commencé entre Paris et Khomeini. C'est à 40 km de la capitale, à Nauf-le-Château, une bourgade des Yvelines, que le guide suprême du chiisme aura mis au point tranquillement les dernières étapes de sa révolution religieuse pour renverser le régime du Shah. L'ayatollah va rester de longs mois dans cette bourgade des Yvelines, dans une totale bienveillance de l'État français, avant son retour triomphal à Téhéran. Et Et quand il prend le pouvoir en 1979, il efface d'un trait de plume une partie de l'héritage de son prédécesseur. Le 9 avril de cette même année, le jour même où le Premier ministre Raymond Barre inaugure l'usine d'enrichissement d'uranium de Pierrelatte, le régime iranien casse le contrat qui le lie à la France. Il renonce à sa commande de deux centrales nucléaires que devait construire notre pays. Le même jour, il dénonce également l'accord concernant Eurodif, entreprise européenne à très forte majorité française et dont la mission est de fournir les centrales nucléaires en uranium enrichi. En 1975, l'Iran du Shah était au capital de Rodif, contre 1 milliard de dollars d'investissement dans le commissariat à l'énergie atomique. En contrepartie, l'Iran bénéficiera de 10% de la production d'uranium. Bien. Mais de cet uranium, Roménie ne veut pas. Non, c'est le milliard qu'il veut pour financer ses réformes intérieures. Refus tout net de la France. Pendant des années, les gouvernements successifs, de droite comme de gauche, font la sourde oreille sur le remboursement de cette dette. Jusqu'à ce que l'Iran emploie les grands moyens, enlèvements et attentats. Voilà où nous en sommes en ce début d'année 87, en plein conflit diplomatique autour des ventes d'armes à l'Irak et du dossier nucléaire. Parallèlement, à Paris, l'enquête sur les attentats avance grâce aux éléments recueillis par la taupe Lofty, ce Tunisien qui est venu dénoncer à la DST les responsables de ces attaques meurtrières. Grâce aux écoutes, les services français apprennent que les terroristes prévoient de transporter de grosses charges d'explosifs en vue d'un prochain attentat. Alors, on interpelle tout ce beau monde à la mi-mars 87. Dans le bureau du juge en charge de l'instruction, Gilles Boulouk, le Tunisien Fouad Ali Saleh reste muet. En revanche, ses complices, confondus aussi grâce aux écoutes, passent à table. Et ils vont donner au juge un nom qui permet de mettre en cause les Iraniens, Wahid Gorgi. La guerre des ambassades.
France Inter. Affaires sensibles.
Les hommes soupçonnés d'être les auteurs des attentats commis à Paris entre 1985 et 1986 ont donc désigné une tête pensante. Elle serait à l'ambassade de Téhéran à Paris, un certain Wahid Gharoji, traducteur officiel de l'ambassade d'Iran à Paris. Élément supplémentaire, ce parfait bilingue français farci circule en BMW gris foncé, la même voiture que celle aperçue quelques instants avant l'explosion de la bombe rue de Rennes. En juin 87, le juge Gilles Boulouk ordonne l'interpellation du traducteur iranien. Mais il n'est pas chez lui. A-t-il quitté la France ? Ses voisins le disent à Genève. Mais le juge Boulouk a une autre conviction. Le 30 juin, il mandate la police pour contrôler tous les mouvements à l'ambassade d'Iran à Paris, avenue d'Iéna. C'est le début de ce qu'on appellera la guerre des ambassades.
Vos papiers, depuis ce matin, la police contrôle systématiquement tous ceux qui entrent ou qui sortent de l'ambassade d'Iran à Paris. Ils sont à la recherche de Wahid Gharoji, considéré comme le numéro 2 de l'ambassade d'Iran. On le soupçonne d'avoir joué un rôle dans les attentats de septembre dernier à Paris. Daniel Grille.
Pour toute personne quittant l'ambassade, l'ordre des policiers est très simple. Direction le panier à salade, stationné à quelques mètres de là. Une demi-heure de contrôle d'identité, certains présentent un passeport, d'autres un certificat de travail. Avec les policiers, mais en civil, t-shirt et jeans, les gros bras du raid, le groupe d'élite de la police, sont en attente dans leur voiture ou sur une moto, au cas où Wahid Gharoji montrera le bout de son nez. Ce soir, 3-4 diplomates et une bonne vingtaine d'employés ont été contrôlés. Pas de quoi satisfaire le juge Boulouk, Gharoji reste introuvable. Et je vous le rappelle, il est impossible de pénétrer dans les locaux de l'ambassade considérée comme territoire iranien.
Surprise, deux jours plus tard, les journalistes sont autorisés à pénétrer dans l'enceinte de l'ambassade pour une conférence de presse. Devant les micros, le chargé d'affaires iranien. Et à la même table, prêt à traduire les propos de son compatriote, Wahid Gharoji. L'homme ne laisse rien paraître sous sa fine moustache noire. Au contraire, il reste imperturbable. Il s'agit de ne pas éveiller les soupçons. Neuf jours plus tard, le 11 juillet, l'Iran reproche à la France des brutalités contre un diplomate de l'ambassade à Paris lors d'un incident avec des douaniers français. Et la tension monte encore d'un cran quand, dans la nuit du 12 au 13 juillet, le porte-conteneur français Villeneuve est attaqué dans le golfe Persique par deux vedettes iraniennes. Ça commence à faire beaucoup. Alors, le 14 juillet, le président Mitterrand tente de calmer le jeu tout en accusant l'Iran de chantage.
Le gouvernement a cherché à rétablir des relations normales avec l'Iran, qui n'est pas notre ennemi. Nous sommes un pays ami de l'Irak. Cela ne veut pas dire que nous soyons ennemis de l'Iran. Nous cherchons à rétablir des relations normales. Il faut reconnaître que chaque fois que cela paraît possible, il y a un élément, un événement qui intervient, qui l'empêche. Je n'accepterai pas pour autant les conditions que l'on tente de nous imposer.
Mais dès le lendemain, le premier secrétaire de l'ambassade de France en Iran, Paul Tory, est accusé d'espionnage et convoqué par le procureur de la Révolution islamique. Le 16 juillet, l'Iran lance par un ultimatum à la France l'ordre de lui donner 72 heures pour lever le dispositif policier entourant son ambassade à Paris. Sinon, le régime des Mollahs rompra ses relations diplomatiques avec la France. Sans attendre l'expiration de ces 72 heures, Paris prend les devants.
Madame, Monsieur, bonsoir. La France a donc rompu ce matin ses relations diplomatiques avec l'Iran. Elle l'a fait avant même que n'expire l'ultimatum de Téhéran. Jacques Chirac a eu ce matin un entretien avec le chef de l'État, certainement pour mettre au point la réplique très ferme de Paris. D'ailleurs, dès la nuit dernière, le dispositif policier était considérablement renforcé autour de l'ambassade d'Iran à Paris. Hervé Brusini.
Et l'ambassade d'Iran devient une souricière. On peut toujours entrer, certes, mais sortir, non, il n'en est plus question. Un vrai blocus vient d'être ordonné. Au même moment, à Téhéran, les autorités iraniennes ont pris la même disposition. Il est midi et demi ce matin. Un quart d'heure plus tard, la rupture des relations diplomatiques avec l'Iran est annoncée par la France.
Après ce coup d'éclat, la situation s'enlise. Le juge Boulouk prend même quelques jours de vacances au mois d'août, n'espérant plus auditionner Gharoji au cœur de l'été. À la rentrée 87, les relations diplomatiques entre la France et l'Iran sont toujours rompues et le dispositif policier toujours aussi drastique autour de l'avenue d'Iéna. Mais en coulisses, les négociations autour du sort des otages battent son plein avec les émissaires du régime iranien. Et c'est Jean-Charles Marchiani qui est la cheville ouvrière de ces tractations pour le compte du ministre de l'Intérieur, Charles Pasqua. Le gros morceau de la négociation reste le remboursement de la dette Eurodif. Un premier versement est enfin effectué par la France, avec effet immédiat. Les journalistes Jean-Louis Normandin et Roger Hawkes sont libérés le 27 novembre. Deux jours plus tard, donc le 29, le juge Gilles Boulouk peut enfin procéder dans son bureau à l'audition de Wade Gorgui, comme le raconte l'envoyé spécial d'Antenne 2 devant le palais de justice de Paris, Hervé Brosini.
Wade Gorgui, dont je vous l'ai dit, est en ce moment même dans le bureau du juge qui instruit le dossier des attentats de septembre 86. Un magistrat qui a d'ores et déjà inculpé, on le sait, une dizaine de personnes dans cette affaire. Toutes ces personnes appartiennent au réseau du Hezbollah, le parti de Dieu pro-iranien. Certaines ont cité le nom de Wahid Gorgui, mais on le sait, pour ce magistrat, malgré le temps d'enquête qui s'est écoulé depuis que Gorgui était retranché dans son ambassade, eh bien pour le juge Boulouk, dans son dossier, il n'y aurait pas de quoi inculper Wahid Gorgui. Alors nous attendons donc maintenant l'issue de cette comparution, inculpation ou pas inculpation. D'après certaines informations, actuellement, au Bourget, un avion serait d'ores et déjà prêt pour ramener Gorgui à Téhéran.
Les informations d'Hervé Brosini étaient bonnes, car dès la fin de son audition, Wahid Gorgui quitte la France pour Karachi. Là, sur le tarmac de l'aéroport pakistanais, il est remis aux émissaires des autorités iraniennes en échange du consul de France à Téhéran, Paul Torry. Entre-temps, le juge Boulouk a lavé de tout soupçon l'interprète iranien, estimant que les charges pesant contre lui ne justifiaient pas une inculpation. Mais la procédure a-t-elle véritablement été respectée? Ou bien, la raison d'État a-t-elle pesé dans la décision du juge de ne pas inculper Wahid Gorgui? Dans les couloirs du palais de justice de Paris, la rumeur court, appuyée par certaines prises de position dans la presse d'ailleurs. Un dessin de plantu, à la une du Monde, caricature Gilles Boulouk en agent d'aéroport, proposant à l'Iranien une place proche du hublot. Fumeur ou non-fumeur, interroge le juge sous le trait du dessinateur. En pleine campagne pour la présidentielle de 88, c'est François Mitterrand lui-même qui instille le soupçon. Le 28 avril, le président sortant affronte son premier ministre Jacques Chirac lors du débat d'entre-deux-tours. Au moment de clore la séquence consacrée à la politique intérieure, Jacques Chirac croit donner un coup fatal à son adversaire. Il lui reproche d'avoir fait libérer deux membres d'Action Directe au début de son premier mandat. En clair, d'avoir laissé la France à la merci des terroristes. Alors, le président socialiste esquisse l'un de ces imperceptibles sourires dont il a le secret et qui annonce la foudre.
Je me souviens des conditions dans lesquelles vous avez renvoyé en Iran M. Gorgui, après m'avoir expliqué à moi, dans mon bureau, que son dossier était écrasant et que la complicité était démontrée dans les assassinats qui avaient ensanglanté Paris à la fin de 1986.
M. Mitterrand, tout d'un coup, vous dérapez dans la fureur, concentré. Mais est-ce que vous pouvez dire, M. Mitterrand, en me regardant dans les yeux, que je vous ai dit que nous avions les preuves que Gorgui était coupable, alors que je vous ai toujours dit que cette affaire était du seul ressort du juge. Mais pouvez-vous vraiment contester ma version des choses en me regardant dans les yeux?
Dans si les oui, yeux, je la conteste.
Qui dit vrai? Le saura-t-on un jour? Toujours est-il que le dénouement par le haut de l'affaire Gorgui était nécessaire à la libération des derniers otages français au Liban. Depuis le retour en France de Roger Hawkes et de Jean-Louis Normandin, trois Français restent encore aux mains du Hezbollah. Jean-Paul Kaufmann, Marcel Fontaine et Marcel Carton. Telle une bénédiction électorale, car c'est bien là l'enjeu. Leur libération intervient le 4 mai, à 4 jours du second tour de la présidentielle. Les Chiraciens ont toujours accusé toute manipulation, toute négociation qui aurait été conclue à point nommé. Mais l'heureuse nouvelle ne changera pas le cours de l'histoire. Le 8 mai, François Mitterrand est largement réélu avec 54% des voix. les otages revenus dans leur foyer, la dette Rodif apurée, les relations franco-iraniennes compliquées font encore une dernière victime.
Je suis la fille du juge Boulouk, du terrorisme, du milieu des années 80, des attentats parisiens. Et je suis orpheline de tout cela. Je suis la petite fille qui a connu les menaces de mort et les gardes du corps autour de sa 10e année. Les campagnes de presse, les phrases assassines. J'avais 13 ans lorsque mon père a tiré, le 13 décembre 1990.
Clémence Boulouk, la fille du juge Gilles Boulouk. En 2006, dans un documentaire de William Carell, elle raconte la mort tragique de son père et ce qui l'a précédé, donc ce qui l'aurait causé. Le juge Boulouk n'aurait pas supporté la remise en cause de son travail, pas plus que les regards en coin de ses collègues. Et sa mise en examen par un autre juge pour violation du secret de l'instruction. Pourquoi d'ailleurs ? Dans la presse, le juge Boulouk insiste sur l'innocence de Wahid Gorgi qu'il a laissé en liberté. Et il charge Fouad Ali Saleh. Pour les avocats de ce dernier, le juge est partial. La requête en suspicion légitime contre lui est rejetée, mais les 24 heures de garde à vue laissent des traces. Pourtant, la condamnation de Fouad Ali Saleh à 20 ans de réclusion criminelle début 90 peut lui donner satisfaction du travail accompli. Mais des ennuis personnels s'ajoutent à la tâche laissée par l'affaire Gorgi et sa lassitude face aux exploitations politiques de cette dernière. Dans la nuit du 12 au 13 décembre 1990, il se tire une balle dans la bouche avec son arme de service. Ce sera la dernière victime des épineuses relations franco-iraniennes tout au long des années 80 qui ont fait couler beaucoup de larmes et de sang. Vous écoutez France Inter, et en particulier Affaires Sensibles, aujourd'hui l'affaire Wahid Gorgi, dont nous allons parler avec notre invité, Hervé Bruzzini. Bonjour.
Bonjour.
Journaliste, vous êtes le président du prix Albert Londres, dont on va dire un mot d'ailleurs à la fin de l'interview. Alors vous avez dirigé plusieurs rédactions à la télé, deux services publics, et en 87, au moment de la guerre des ambassades, vous avez suivi l'affaire Gorgi pour Antenne 2. Vous étiez au service des informations générales, c'est la concentration de reporters ça, chez vous?
On va dire que c'était plutôt police-justice.
Police-justice, oui.
Et que je travaillais avec mon binôme qui reste mon ami, qui s'appelle Dominique Thiers.
Bien sûr. Quelle était l'atmosphère dans Paris pendant ces longs mois où se sont enchaînés les attentats? Dans quel état d'esprit on vivait dans la capitale française?
On vivait dans la fébrilité, pour ne pas utiliser le mot peur. C'est là qu'on a commencé à mettre en place les fouilles à l'entrée des grands magasins. Et il y avait une sorte de climat où chacun se demandait et regardait l'autre et s'il n'y allait pas y avoir une explosion, puisque vous l'avez dit dans cette rétrospective que je trouve vraiment claire, et c'est un exploit par rapport à la difficulté. C'était à chaque fois des lieux de grande concentration de foule. Et donc poser des questions de gestion de sécurité absolument terribles et donc de crainte de la part des personnes.
Puis il y avait une autre dimension, alors professionnelle celle-là, mais tous les gens qui n'étaient pas journalistes l'ont ressenti aussi, c'est qu'il y avait des prises d'otages de journalistes et ça plombe quand même l'atmosphère.
Ah oui, ça.
Surtout
c'est
en plus Antenne 2.
Bah, comme vous dites. Je veux dire, c'est nos amis qui étaient là-bas.
Ah ouais.
Et c'était terrible, parce que il figurait, vous l'avez rappelé, et on l'a rappelé là dernièrement encore beaucoup, puisqu'on reparle beaucoup d'otages, dans le générique de notre journal, et c'était nos amis qui étaient exposés le soir. Et vous savez, un jour j'ai rencontré, chemin faisant, on en reparlera, le juge Boulouk,
oui.
Et ce juge, qui était d'une sensibilité à fleur de peau, m'a dit, vous savez, à chaque fois que vous parlez de cette affaire, le Liban, les attentats, vos amis en subissent des conséquences qui sont vraiment très désagréables.
Et comment on fait dans ces cas-là? C'est terrible.
Eh bien,
quel dilemme.
Ça nous a rappelé à une sorte de devoir d'extrême vigilance. d'exigence absolue. Nous n'avons rien eu de majeur, mais en même temps, oui, on prenait garde. Et c'est une des multiples leçons de cette affaire où nous avons pris conscience de l'implication aussi par l'image de l'atteinte à la dignité des personnes. Beaucoup de gens ont dit qu'on ne pouvait pas filmer comme ça les victimes d'attentats et chemin faisant, toute une éthique, une déontologie s'est mise en place avec l'action, entre guillemets, avec terroristes.
Que vous avez appliqué pour 8 ans plus tard, pour les attentats de 95,
oui,
Saint-Michel.
Bien sûr, et puis aussi pour les otages, le floutage, l'arrêt sur image, le fait de ne plus laisser s'exprimer quelqu'un qui est sous contrainte. Vous avez rappelé Saint-Michel, c'est ça c'est une des grandes balises de la jurisprudence en ce qui concerne l'atteinte à la dignité.
Est-ce que donc ça, la façon de couvrir ces affaires de terrorisme a changé? Ça a été un point. C'est comme l'accidentologie finalement. C'est quand on s'aperçoit qu'il ne faut pas faire comme ça, qu'on trouve les chemins pour faire comme il faut faire. Voilà. C'est malheureux, mais c'est comme ça. Et justement, comment vous avez pu travailler? Puisque vous parliez du juge Boulouk, ça tombe bien. Je voulais vous demander comment vous avez travaillé à l'époque sur un terreau aussi compliqué avec le juge. Comment ça se passe? Outre ce qu'il vous a dit, chaque fois que vous dites quelque chose, vous les mettez en danger.
Bah, disons que nous avons compris, et vous me direz, il était temps, puisque c'était une France qui avait déjà été secouée par d'autres attentats de la fin des années 70, début
Action
80.
Directe, ouais.
Action directe, Abu Nidal, oui. La Sala, la Corse. Très franchement, c'était des soubresauts de violence permanente.
Le théâtre aussi, on a oublié.
Et le théâtre.
Comme violence, c'était, ça se posait
théâtre,
là.
Oui. Absolument. Et donc, on a pris conscience de la nécessité de développer une enquête spécifique qui nous soit propre. C'est-à-dire qu'on ne pouvait plus faire une chose qui était, épouvantable, qui consistait à prendre le texte de revendication, à le mettre sous une caméra verticale pour montrer le logo de la signature et rappeler les précédents. En quelque sorte, nous étions devenus une colonne Maurice pour de l'action terroriste. Parce que on avait peu de choses, on avait peu de sources. Et donc, il a fallu développer, aller beaucoup plus loin, parce que le défi qui nous était lancé, avec en plus nos amis qui étaient là-bas retenus, eh ben, il fallait qu'on soit autonome et pas reprendre non plus ce que faisaient tous nos confrères et consoeurs, et qui étaient bien meilleurs que nous. Et donc, on est allé à la rencontre, je bénis encore notre chef de service, Marcel Tria, je le cite, parce que c'est une réalité. Nous sommes allés à la rencontre des magistrats, le parquet antiterroriste venait de se constituer, oui. Il y avait là Alain Marceau, il y avait une juge qui a continué ensuite, s'appelle Laurence Levert, tout ça est dans mes souvenirs, et Gilles Boulouk. Et Boulouk était un personnage absolument incroyable, parce que il était d'une sensibilité totale, il était, vous savez, presque... Vous lui serriez la main, vous sentiez un personnage qui était au bout de l'angoisse.
Ouais.
C'était incroyable, parce que tellement il était conscient de ses responsabilités.
Après
on était bouleversé par ça, pardon Fabrice. Vas-y.
Après, la question du suicide, on le sait, nous les journalistes, ça renvoie à quelque chose de trop intime pour dire qu'il s'est suicidé à cause de ça. On est bien d'accord.
Non, mais
probablement,
je parle de la fibre de l'homme.
Oui.
Et nous avons aussi, je me souviens, commencé à rencontrer à l'époque un truc inimaginable, c'est-à-dire des patrons de services secrets. On a rencontré Bernard Gérard.
Alors, qui était Bernard Gérard?
Bernard Gérard, c'était le patron de la DST.
D'accord.
Et j'étais surpris, d'ailleurs, plusieurs années plus tard, de voir qu'un téléfilm sur cette affaire, c'était Michel Houellebecq qui jouait Bernard Gérard. Or, Bernard Gérard était aux antipodes de Houellebecq, parce que c'était un bon vivant, un type qui parlait fort, qui adorait le rugby, et on imagine vraiment le décalage qu'il y avait avec Houellebecq. Toujours est-il qu'on se voyait un peu, parce qu'il fallait des sources, et on avait rendez-vous dans un resto qui s'appelait La Filoche, ça ne s'invente pas. Et ces apports-là faisaient qu'on pouvait commencer à avoir des points de vue, pas à prendre pour argent comptant ce que les uns et les autres disaient, mais au moins à être nourris, plus quelques autres qu'on ne citera pas aujourd'hui.
À partir du moment, à partir de quel moment vous avez compris que l'Iran était derrière tout ça et les raisons qui font que l'Iran était derrière tout ça, les ventes d'armes à l'Irak et la question nucléaire. Vous l'avez compris tout de suite, il a fallu...
Non, on ne l'a pas compris tout de suite. Ouais. Nous étions dans un brouillard absolu.
Mais est-ce que ça paraît tellement clair avec le recul, hein? Mais avec le recul, bien sûr.
Oui, mais il y avait ce fameux CSPPA dont vous avez parlé, qui mélangeait tout. Mmh. Et donc, je dirais que quand même, assez vite, on s'est rendu compte qu'au moins beaucoup de questions se posaient à propos des Farles et de Georges Ibrahim Abdallah, que c'était pas ça, ça ne collait pas, comme disent les policiers. Et donc, fallait bien voir d'autres éléments. On a commencé à savoir ça parce que ça renvoyait, oui, à la guerre Iran-Irak, et puis l'OFTI. L'OFTI, ça était majeur. Pour comprendre qu'il y avait même plusieurs groupes, et vous savez, il y en avait peut-être même un troisième qui s'occupait justement de la partie médiatique avec la rédaction des communiqués du CSPPA. On a longtemps cru que c'était Gorgi lui-même, et à l'époque, il y a eu des recherches graphologiques, et semble-t-il, il a été exonéré de toute responsabilité sur ce point.
France Inter. Affaires sensibles.
Hervé Brusigny, on a souvent le sentiment que c'est à partir de 2001 que le monde est, en tout cas le monde occidental, est entré dans la peur justifiée ou non parfois du terrorisme. Mais la France, elle l'a connu bien avant, la preuve.
Oui.
Est-ce que c'était le seul pays comme ça en Europe? Peut-être pas le tout, mais au moins l'un des plus touchés.
Oui, certainement. Mmh. La Palestine. Voilà, il y avait, on l'a dit, les mouvements indépendantistes violents. Français.
Ouais.
Il y avait la Salah, je me souviens d'une tuerie à l'aéroport d'Orly.
D'Orly, là, oui. Au comptoir de la Turkish Airlines, c'était exactement. En juillet 1983.
Voilà. Et donc, nous étions comme ça, sans cesse secoués par l'action violente, à telle enseigne que dans la rédaction, on nous avait doté d'un petit pager, c'est-à-dire une sorte de petit rectangle noir avec des clignotants, parce qu'on savait que peut-être il allait se passer quelque chose, et le soir, quand je branchais ça, j'espérais que le truc tombe en panne, car je n'en pouvais plus de cette violence permanente qui nous mettait dans tous nos états. Vous savez, c'est une question même, ça. C'était de garder son équilibre par rapport à l'assaut permanent d'une violence. Mmh.
Et je rappelais justement ce point, on était venu avant le disque, j'y suis revenu parce que on a beaucoup d'auditeurs autour de la trentaine, là on le sait, ouais. Beaucoup de gens de 30 ans qui nous écoutent et qui n'ont pas vécu, ils sont trop jeunes pour avoir vécu ça, c'est pour ça que j'y suis revenu. Maintenant, je vais vous poser une question un peu plus technique, de technique journalistique, mais qui peuvent intéresser nos auditeurs. Nous, l'avantage qu'on a dans Affaires Sensibles, c'est qu'on traite des affaires qui ont un début, un milieu et une fin. Donc on connaît les contours, on a cette lucidité que le recul nous apporte. Vous, quand vous êtes au cœur de l'action comme ça, comment feuilletonner tout ça, faire en sorte que les gens ne se trompent pas et quel est leur degré d'information au moment où vous leur donnez le troisième épisode? Comment on s'en sort de tout ça?
Bah, d'abord, on ne feuilletonne pas. Ce que je veux dire, c'est qu'il n'y a pas de vision a priori...
scénaristique, une construction scénaristique.
Non, d'ailleurs, on vient de dire le contraire. Mmh. La violence est là, qui à chaque jour vous secoue. Et donc, si vous voulez commencer à écrire un scénario, l'instant d'après, il vole en éclats. Mmh. Donc, ça n'a pas de sens. En revanche, ce que vous dites est important sur le fait de remettre, comme on dit, en perspective.
Oui, c'est ça. Redonner... C'est ça que je veux dire, en fait, saucissonner, comment on retrouve la cohérence de l'ensemble?
Eh bien, je dirais qu'on l'a fait chemin faisant, que ça n'était pas satisfaisant, mais que, c'est terrible à dire, nous avons fait là nos premières armes. Vous savez, d'une certaine manière, le terrorisme et la violence ont provoqué une nécessité d'enquête dans un grand média comme Antenne 2.
Ouais.
Ça vient de là.
D'accord.
Parce que c'est tellement puissant et vous avez, vous êtes face à la mort et à la vie, et donc il faut être solide dans les faits que vous apportez, et c'est ça qui quelque part s'est mis en marche. Et c'est ce qui fait que nous avons été au-delà des rapports que nous avions parfois avec le service de politique étrangère, où il y avait des grands reporters extraordinaires, mais où on pratiquait des analyses,
ah oui.
Voilà, on parlait de géopolitique. Et nous, nous étions sur le terrain avec des policiers qui parlaient C4, qualité d'explosif, que là, ça n'allait pas, que la voiture de Gorgie était peut-être pas tout à fait la même que celle qu'on avait vue
la griffonzée,
rue de Rennes. Et qui parlait dossiers, preuves. Et finalement, il y a eu effectivement une sorte de dichotomie, mais on a été au-delà de ça rapidement. Et aujourd'hui, par exemple, c'est un seul et même service.
Ouais.
Donc ça n'a plus rien à voir.
Et alors vous, qui réfléchissez, vous êtes président du prix Albert Londres, donc vous réfléchissez à ce métier. Quel sens à ce métier et comment lui donner du sens, effectivement.
Oui.
Quel est votre regard sur l'information aujourd'hui distillée par les chaînes Tout Info?
Ah, la voilà la question.
Ouais, ça m'intéresse de savoir ce que vous en pensez, vous.
Et vous la posez dans une maison où France Info existe.
Ouais.
Eh bien, ce que je pense, c'est...
Vous avez créé France Info Télé, vous étiez au début. Vous étiez,
non, je ne l'ai pas créé,
vous
j'ai accompagné.
Un opérateur de cela, oui.
Ouais. Bon. Et le web.
Ouais.
A fortiori, la question se pose sur le web.
Bien sûr.
Écoutez, je trouve qu'il se dit beaucoup de choses. D'abord, moi, ce qui me gêne toujours, c'est de dire... Les chaînes Tout Info, les journalistes,
ben,
il y en
mêmes,
a des différentes. Et chacune a son exigence.
Mmh.
Et j'ai de la faiblesse de penser qu'un cahier des charges d'éthique et de déontologie, vous savez, quand on a vécu l'hypercachère, hein, quand on a vécu ce qui s'est passé à Charlie...
Ouais.
Quand on a vécu toutes les tueries parisiennes du stade au Bataclan, je pense quand même que nous avons évolué et que nous ne sommes pas à ce point avoués aux gémonies. Et
on tire des leçons, quoi, en gros. On les tire quand même.
Oui,
c'est
parce
ça.
Que nous ne sommes pas tous une grande équipe de salopards patentés.
Bien. Alors, le prix Albert Londres, il était remis, ce prix Albert Londres de cette année, il était remis là avant-hier, hier ?
Oui, avant-hier.
Alors, c'est qui ?
Ah ben bah alors...
Ah ben bah voilà, on va le rappeler.
Ben bah oui, rapidement. Ben bah écoutez, il y a Nicolas Legendre qui a écrit un bouquin qui s'appelle « Silence dans les champs » et qui est une géniale enquête sur ce qu'on pourrait appeler la « braise mafia ». C'est-à-dire l'agriculture avec des rapports de force énormes en pays breton.
Productiviste, d'où les algues vertes.
Exactement. Voilà. Il y a eu Hélène Van Tronck, Hélène, qui a écrit, qui a réalisé Daesh, les enfants fantômes, sur cette tragédie d'enfants qu'on qualifie de bombes à retardement, et du coup on les laisse là où ils sont, ouais. Ce qui est absolument stupéfiant. Et puis Wilson Fasch, qui a écrit, lui, c'est la presse écrite, des tas d'articles formidables sur l'Ukraine. La guerre de Tel Aviv est quelque chose d'extraordinairement sensible, presque poétique. Bref, tous les trois, ils font un peu quelque chose qui ressemble à la galaxie Albert Londres.
Bravo et merci à vous.
Merci Fabrice.
Au revoir. Aujourd'hui, l'affaire White Gorgie, une émission que vous pouvez réécouter en podcast, bien sûr. À la technique, il y avait Philippe Duclos.
Affaires sensibles est un podcast France Inter.